Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors une nouvelle saison de Cinérama sur Divergence avec eh bien toujours le même générique hein, depuis 3 ans. Donc je pense qu'on va quand même le changer au moins à partir de 2011. Puisque 2011 apparaîtra la nouvelle grille de Divergence. Alors nous, on fait partie des petits chanceux qui ont encore l'occasion de faire de la radio pour cette rentrée. Et donc eh bien, on va parler cinéma. Alors on va faire seulement une demi-heure cette année. Tu peux en expliquer la raison ?
Eh bien, vu qu'on est deux, en fait, Cinérama, nous l'avions commencé à 3 avec Boris il y a quelques années déjà. Et eh bien, cette année, on a décidé de resserrer un petit peu par rapport à l'année dernière, de faire une demi-heure plutôt qu'une heure. Parce que sur l'année dernière, c'était un petit peu difficile d'assurer, de remplir l'émission chaque semaine pour une heure, avec seulement 2 ouaves. À emmener dans les salles de cinéma. Donc voilà, cette année ce sera une demi-heure, en espérant quand même qu'il y aura du contenu et que ça vous plaira.
C'est évident qu'il y aura du contenu puisqu'on a sans peine rempli cette demi-heure qui va arriver. Alors de quoi tu vas nous parler ?
Alors moi je vais commencer cette année, cette nouvelle saison, par vous parler du nouveau film de Ben Affleck, The Town. Voilà, et puis en fin d'émission je vous parlerai très rapidement des quelques événements à ne pas rater sur Montpellier cette semaine.
Et moi, je vous proposerai eh bien de voir de quoi il s'agit quand on, eh bien, on tombe sur l'affiche de A.O. Le dernier Néandertal, qui est un film de Jacques Malaterre. Jacques Malaterre qui est un spécialiste finalement eh bien, de la préhistoire, hein, puisqu'il avait fait plusieurs séries documentaires, notamment avec France Télévisions. Et il se trouve eh bien, qu'il a présenté son film A.O. cet été. C'était au Royal et que, eh bien, on a pu le rencontrer. Donc voilà, ce sera une petite interview et l'occasion de faire un topo sur ce genre qui est complètement déserté par le cinéma, la production tant hollywoodienne qu'européenne, qui est le film préhistorique.
Donc voilà, ça y est, c'est la rentrée. Après 3 mois et demi de vacances amplement, nous revoilà, fin prêt pour attaquer la 4e saison de Cinérama sur les ondes de la radio la plus divergente de Montpellier. Alors quoi de neuf depuis la dernière fois ? Que s'est-il passé pendant ces mois d'été ? Où en est le tournage du prochain Clint Eastwood ? Qui va remporter la Palme d'Or cette année ? Quels sont les projets de Victoria Abril ? À quand une adaptation au cinéma du dernier roman de Michel Houellebecq ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour pour répondre à toutes ces questions qui vous taraudent. Donc ce sera l'occasion sans doute de petites chroniques qu'on inventera au fur et à mesure de l'année. Mais pour commencer cette saison, moi je vais vous parler de The Town, donc nouveau film de Ben Affleck. Il y a quelques années maintenant, deux jeunes comédiens, Matt Damon et Ben Affleck, faisaient une entrée fracassante sur la scène cinématographique. En signant le scénario et en incarnant les deux rôles principaux de Will Hunting, ils ne savaient pas encore que ce film, réalisé par Gus Van Sant, allait leur ouvrir les portes de la profession. Donc après avoir raflé un Oscar pour leur scénario, ainsi que l'Ours d'Or du Festival de Berlin, nos deux amis d'enfance se retrouvent propulsés en haut de l'affiche et entament les carrières que l'on connaît. Alors d'un côté, Matt Damon se fait rapidement un joli CV de comédien respectable, en tournant avec Spielberg, Scorsese, Anthony Minghella, Steven Soderbergh ou Terry Gilliam, la critique et le public faisant de lui une star et le magazine People le sacrant l'homme le plus sexy du monde 2007. Alors d'un autre côté, Ben Affleck, assez desservi par son physique de Ken et faisant coup sur coup de mauvais choix de rôle, donc Armageddon, Pearl Harbor, Daredevil, Paycheck pour n'en citer que quelques-uns, eh bien Ben Affleck devient vite la risée de la critique qui ne voit en lui qu'un acteur bovin et sans talent. D'ailleurs, les célèbres Razzie Awards, qui récompensent les plus mauvais films et artisans du cinéma, le nominent pas moins de 6 fois en 10 ans pour le titre de pire acteur. Donc il a été nominé au titre de pire acteur de la décennie l'année dernière, ou il y a quelques années, quand les Razzie Awards ont fait une sorte de retour sur ces 10 ans pour les plus mauvais artisans du cinéma. Alors en 2006, il se fait malgré tout remarquer dans Hollywoodland de Alan Coulter, pour lequel il prend du poids et campe un George Reeves attachant. Et surprise, il y a 3 ans, Ben Affleck arrête de faire le pitre et passe derrière la caméra. Donc il adapte un roman policier de Denis Lehane, Gone Baby Gone, avec son frère Casey Affleck dans le rôle principal. Et il met tout le monde d'accord sur son réel potentiel en tant que réalisateur. Avec ce film, Ben Affleck fait preuve d'une finesse qu'on ne lui connaissait pas dans ses interprétations. Et il arrive à inverser la vapeur et à donner une deuxième jeunesse à sa carrière. Donc The Town est le second long-métrage de l'aîné des Affleck et sa 3e réalisation, puisque l'acteur avait tourné en 1993 un court-métrage inédit au titre plutôt mémorable qu'on pourrait traduire littéralement par « J'ai tué ma femme lesbienne, je l'ai pendue à un crochet de boucher et maintenant j'ai un contrat de 3 films avec Disney ». Voilà, donc un titre à coucher dehors, mais qui peut présager d'un film intéressant. On ne sait pas, il est disponible nulle part. Donc voilà, Affleck adapte à nouveau un roman policier de Chuck Hogan cette fois, et après Gone Baby Gone nous emmène encore une fois faire un tour à Boston, la ville où il a grandi, et plus précisément dans le quartier irlandais de Charleston, qui est présenté ici comme la capitale américaine du braquage de banque. Donc Doug McRae, incarné par Affleck, est le cerveau d'un gang de braqueurs qui sévissent depuis des années sans être trop inquiétés par la police, jusqu'au jour où l'un de ses acolytes pète un plomb pendant un casse et prend en otage la jeune directrice de la banque pour couvrir leur fuite. Alors malheureusement, cet otage habite aussi à Charleston, et les malfaiteurs se rendent compte qu'elle pourrait bien les reconnaître et les dénoncer aux autorités. Donc Doug est alors chargé de surveiller la jeune femme, mais petit à petit la filature devient flirt, puis relation un peu plus sérieuse, et le pauvre Doug, tiraillé entre sa bande et ses sentiments pour la belle, va s'enfoncer dans une spirale qui l'emporte inéluctablement vers un dénouement tragique. Alors les ressorts de l'histoire empruntent autant aux classiques du film de gangster qu'à des réalisations plus récentes comme Heat de Michael Mann ou La nuit nous appartient de James Gray. Et The Town déroule donc une trame balisée, mais que le réalisateur s'approprie avec sincérité. Pour lui, le crime à Boston ne paye pas. Donc l'histoire s'articule principalement autour du thème de l'enfermement, alors enfermement dans la délinquance et enfermement carcéral bien sûr, mais également dans son quartier, dans sa ville, dans sa famille d'adoption à laquelle on peut difficilement tourner le dos. Et en effet, le personnage principal a toutes les peines du monde à mettre un terme à sa carrière de bandit et à recommencer sa vie ailleurs, dans sa quête de rédemption et dans sa volonté de fuir une situation incompatible avec ses nouveaux désirs, il se heurte à une série d'obstacles qui sont comme autant de cellules imbriquées les unes dans les autres et dans lesquelles il est depuis longtemps prisonnier volontaire. Alors quand ce ne sont pas les flics qui le talonnent et qui l'obligent à se planquer, eh bien ce sont ses compagnons de braquage qu'il sollicite pour faire un nouveau coup encore plus dangereux que le précédent. Et quand il décide de tirer sa révérence dans les règles, il s'aperçoit en fait que les règles ont été posées bien longtemps avant sa naissance et que les 2 vieux parrains du quartier ne sont pas aussi inoffensifs qu'il n'y paraît. Enfin, quand il souhaite renouer avec son père ou s'ouvrir à la femme qu'il aime, il s'aperçoit que le mensonge est aussi une prison dont il est bien difficile de s'évader. Donc il lui faudra tout sacrifier, traverser un enfer pavé de flics et survivre à une hécatombe pour espérer un peu plus de liberté. Voilà, donc malgré quelques caricatures imputables au genre traité, les relations entre les personnages fonctionnent, et ce principalement grâce à une bande d'acteurs convaincants. Alors dans le rôle de Doug, Ben Affleck s'en sort bien, même s'il lui manque peut-être un peu de maturité, un peu d'âge, pour nous émouvoir vraiment. Cumuler les casquettes de réalisateur et d'acteur principal n'a sans doute pas aidé à rendre son personnage aussi intense que le demandait le scénario. Face à lui, Rebecca Hall, la Vicky de Vicky Cristina Barcelona, campe la jeune directrice de banque avec une belle fragilité. Sensuelle sans être pervertie, la brune claire est l'exact opposé de l'ex de Doug, une blonde paumée et droguée, femme fatale de bar topless, que le héros veut fuir comme le reste. Chris Cooper et Pete Postlethwaite en criminel vieillissant ont droit à quelques belles scènes et les autres comédiens sont au diapason. John Hamm en flic implacable et dans le rôle du meilleur ami déséquilibré et violent, un Jeremy Renner toujours accro à l'adrénaline depuis des mineurs. Donc The Town s'avère être un bon petit film policier à la facture et à l'histoire classique mais dont certaines scènes surprennent. Les séquences d'action démontrent un vrai sens du découpage. Les fusillades en pleine rue, la course-poursuite, les braquages, tout ça est emballé avec rythme et lorgne sans complexe du côté de Michael Mann ou de Catherine Bigelow, donc 2 cinéastes plutôt à l'aise dans l'action. Voilà, donc cette nouvelle réalisation confirme que Ben Affleck, quand il s'occupe du scénario et de la caméra, eh bien il peut accoucher d'une bonne série B à l'ancienne, classique et efficace. et que le film de gangster a encore de beaux jours devant lui, pour peu que notre Daredevil aveugle ne perde pas de vue ses aînés, Scorsese en tête, qui ont donné leur lettre de noblesse au genre.
Et donc, ce film, il est projeté au Diagonale, j'imagine.
Alors, il n'est pas projeté au Diagonale, mais vous pouvez le voir en version originale, donc au Gaumont Comédie. Voilà, Gaumont Comédie fait de plus en plus de versions originales. Si vous aviez raté Inception en VO au Diago, vous pouvez aller le voir là-bas en VO. Et Z-Town est donc projeté en anglais sous-titré au Gaumont Comédie.
Inception qui finalement fait une superbe carrière du coup.
Qui marche très bien, oui, depuis sa sortie, c'était en fin juin je crois,
juillet. Oui, c'était ça, oui.
Oui, donc il a deux mois bien plein derrière lui et il marche très très bien. Ouais.
Eh bien merci Martin, on te retrouve un peu plus tard donc pour les événements cette fois-ci. Donc Cinérama continue dans sa version 30 minutes et on va pouvoir parler de A.O. le dernier Néandertal, qui est un film d'un genre particulier, un film d'aventure en costume certainement oui, mais surtout un film qui se déroule à la préhistoire. Alors cette période où ni cinéma, ni cheval de fer hurlant, ni stock option ne venaient troubler la quiétude de ces espaces infinis où le bison était la nourriture convoitée. Alors que nous passerions une saison de Cinérama à parler de films de guerre ou même de western, rares sont les films qui traitent de cette période, la préhistoire. Alors bien sûr, on trouvera des films d'animation fantaisiste comme L'âge des glaces, dinosaures en 3D ou pas, ou encore des comédies où l'anachronisme est la règle comme d'Alain Chabat ou la fameuse famille Pierre à feu. Anachronisme toujours avec la dernière grosse production américaine sur le sujet, 10 000 de Roland Emmerich qui avait déjà raté le lamentable Independence Day et qui persévère dans un genre où tout est bon pourvu que ça fasse du spectacle. Et on va écouter d'ailleurs Jacques Malater, le réalisateur de A.O. le dernier Néandertal parlait de 10 000.
Le sujet lui a tellement fait peur qu'il en a fait un jeu vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'il a mélangé le néolithique, c'est-à-dire nos ancêtres à cheval, mélangé avec des homo sapiens, mélangé à des mammouths aux défenses coupées, dressés comme des teckels, à construire des pyramides, avec des homo sapiens qui parlaient couramment américain.
Bah c'est bon, n'en jetez plus. Je crois que tu l'avais vu, tu en avais fait une chronique ici.
Oui, je l'avais vu, je l'avais adoré, à peu près comme Jacques Malater. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était bourré d'anachronismes, c'était surtout un prétexte à faire du grand spectacle, des poursuites en mammouth et compagnie. Ouais.
Bien, on va écouter ce que dit justement Jacques Malater sur les films de préhistoire, pourquoi il y en a si peu finalement.
Dès qu'on fait un film préhistorique, si on rate sa cible, on fait rire. On fait rire et on fait la famille Pierre à feu.
Voilà, la famille Pierre à feu ou encore, forcément, 10 000. Alors, le plus connu des films sur la préhistoire, c'est sûrement La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, sorti en 81. Alors, s'il n'est pas exempt d'anachronisme ou d'audace scientifique, il s'agit tout de même d'une intrigue qui nous raconte comment un groupe d'hominidés ne savait pas produire le feu quand Homo sapiens avait déjà inventé le barbecue. C'est presque ça, je résume. Le plus grand reproche que l'on peut faire à la guerre du feu, c'est de mêler différents genres humains. Ceux qui cherchent le feu font penser à Néandertal, ceux qui l'ont à Sapiens, et il y a deux autres groupes qui sont des hommes-singes, des Homo erectus peut-être, mais le problème c'est que tout ce beau monde n'a pas vécu en même temps. C'est ça précisément l'évolution. Alors un autre film sorti quelques années plus tard, en 86, Le clan de la caverne des ours, fut un bide total, car finalement peu réaliste, et d'après ceux qui l'ont vu plutôt ras des pâquerettes, j'avoue que je ne l'ai pas regardé. L'ambition de A.O. le dernier Néandertal se situe bien au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et c'est là son mérite. Alors avant de mettre en scène A.O. le dernier Néandertal au cinéma, Jacques Malater avait réalisé pour la télévision trois documentaires à succès sur l'évolution, l'Odyssée de l'espèce en 2002, Homo sapiens en 2005 et Le sacre de l'homme en 2007. C'est donc un réalisateur qui connaît son sujet. Et comme les rares films qui traitent de la préhistoire, A.O. est librement inspiré du livre A.O. l'homme ancien de Mark Klapczynski. De passage à Montpellier cet été pour présenter son film en avant-première, et c'était même avant de filer à Totavel, où il y a l'homme de Totavel qui est là-bas, nous avons tendu le micro et avons raccourci une agréable discussion de 30 minutes en une douzaine de minutes.
Je suis A.O.
Jacques Malater et j'essaye de faire des films et espère jamais ne savoir en faire un, sinon j'arrête.
Je vis là où les grands froids sont éternels. J'ai voulu faire un film sur la préhistoire au plus proche du réel. Donc mes acteurs étaient prévenus que j'allais les amener dans des conditions extrêmes. Je voulais pas qu'il y ait de tricherie. Je voulais pas qu'un acteur joue le froid en studio alors qu'il n'avait pas froid. Donc voilà, ils sont venus avec moi corps et âme. Et plus âme qu'avec corps, je dois dire, parce qu'à un moment donné, il faut oublier son corps pour ne penser qu'à son âme. Et ils sont venus avec moi parce qu'on avait envie de raconter aux spectateurs une histoire vraie. C'est bien pour ça aussi qu'il n'y a pas d'animaux en 3D, il n'y a pas de mammouth en 3D. Il n'y a que des gens qui se débattent dans une Europe vieille d'un 30 000 ans pour assumer et vivre leur destin. Comment ils sont arrivés jusque-là? Après un long casting, parce qu'il a fallu les choisir, il a fallu les avertir, et après il a fallu faire un corps unique, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois de répétition avant ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus un réalisateur et des acteurs, il y a une famille qui déboule sur un set où il fait moins 20, moins 30, ou qui déboule sur un set où il fait plus 30, plus 40, et qui va aller au bout de son histoire pour la vivre sans égo, puisque vous... On le voit dans le film, même leurs parents ne les reconnaîtront pas tellement ils sont maquillés. Donc ils sont au service d'une histoire qui est notre histoire, celle de nos ancêtres.
Je veux retourner là où je suis né.
Ok.
Les hommes à la face peinte ont peur de moi. Je suis seulement différent d'eux.
Bah, chez Néandertal, il y a tout d'humain autant que chez Homo sapiens, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire Néandertal, il a été longtemps mis au placard. Même lorsque le jour où on a découvert son crâne, on a dit c'est une autre espèce humaine, c'est une autre race. C'est notre. Voilà, c'est pas un homme. Et puis au fil des ans, au fil d'un siècle, on lui a redonné sa noblesse. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement il était bien évidemment humain, bien évidemment il était aussi intelligent que nous. Bien évidemment, il était aussi sensible que nous, puisqu'il enterrait ses morts. Il leur faisait des offrandes, ça veut dire qu'il avait un affect pour eux, mais ces offrandes étaient aussi prolongées dans un au-delà. Ça veut dire qu'il arrivait à se projeter dans une vie ailleurs. C'est ce qui fait totalement la différence entre l'homme et l'animal, c'est s'imaginer ailleurs, s'imaginer autre que ce qu'on est. Et Néandertal a prouvé aussi qu'il était peut-être plus humain que nous, puisqu'il nous a laissé la place sur cette Europe qu'il a occupée plus longtemps que nous. Il faut savoir que c'est une espèce humaine qui a vécu plus longtemps que nous sur la planète, qui a disparu. Donc Homo sapiens n'est peut-être pas voué à être éternel. Donc tirons-en des leçons. Et Néandertal était encore plus humain, puisqu'on a trouvé des corps de Néandertaliens adultes, manchots dès la naissance, mais... mort à 30 ou 40 ans. Donc ça veut dire que ces gens-là, qui à cette époque-là, on pouvait considérer que le handicapé ne servait absolument à rien pour un clan, puisqu'il ne pouvait pas chasser ni cueillir. Il a été pris en charge par une société qui s'appelait le clan ou la tribu. Il a été protégé et aimé comme les autres, alors qu'il n'avait aucun rendement. Donc si ça, c'est ne pas être humain, alors qu'est-ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, qui avons oublié que nous sommes mortels?
Suis-je un monstre? Pourquoi me rejette-t-il? Je suis la nature, les animaux me guident et la terre me parle.
D'en haut, au-delà du film aventure, romanesque, spectaculaire, il y a un deuxième niveau, avant d'atteindre le troisième, qui est celui de voir comment on vivait, voilà, qui est purement pédagogique, mais en tout cas, il y a un deuxième niveau qui est fondamental, c'est les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui existaient à l'époque, et qu'on traitait de manière peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus fraternelle, qui est le rejet de l'autre, le rejet de celui qui est différent, le rejet de ce qu'on appelle étranger, celui qui ne me ressemble pas. Est-ce que je dois l'accepter? Est-ce que je dois le rejeter? Et si je l'accepte, finalement, j'oublie sa différence et je vois qu'il me ressemble. On y parle aussi d'identité. On a beaucoup parlé cette année d'identité, mais celle-là, pas nationale. On y parle d'identité planétaire. Parce que là, on a une identité planétaire. On y parle de maternité, de sentiment de paternité. On y parle de famille recomposée. On y parle de nomadisme. qu'est-ce qu'il y a de plus actuel en ce moment dans l'actualité que le nomadisme et le rejet du nomadisme? Et on a oublié qu'on avait été 400 000 ans nomades. Ça fait juste 12 000 ans qu'on est sédentaires. Donc faisons attention de ne pas trop tirer sur nos derniers nomades d'Europe ou nos derniers nomades du monde. Ils ont encore beaucoup de belles choses à nous apprendre parce qu'ils sont ce que nous étions même pas hier au niveau de la préhistoire, juste tout à l'heure. On y parle aussi dans AO de l'homme et de sa place dans l'environnement, de son respect pour la nature, c'est-à-dire que nos ancêtres ne prenaient à la nature que ce dont ils avaient besoin, et en plus, ils se permettaient le luxe de la remercier chaque fois qu'ils lui prenaient quelque chose. Ça, je crois qu'on l'a encore oublié aujourd'hui.
Petite Dom, que la nature te donne la force de créer la vie.
Alors, on vous entend parler hein, de Néandertal. Vous savez plein de choses. Vous avez fait de nombreux documentaires, sur, pas forcément sur Néandertal, mais sur Sapiens, vous avez fait l'Odyssée de l'espèce. Alors, finalement, entre les documentaires et la fiction, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que la fiction, finalement, vous donne pas une espèce de liberté? J'ai vu dernièrement le film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu. Je l'avais pas vu depuis longtemps. J'ai cru apercevoir des problèmes parce qu'on voyait des choses anachroniques, parce qu'on voyait trois types de mini-idées à l'intérieur du film, alors que vous, non, vous avez certaines contraintes, mais est-ce que quand même vous n'avez pas une certaine liberté que vous permet la fiction?
Oui, il faut rendre à l'Odyssée de l'espèce ce qu'elle m'a offerte, c'est-à-dire d'abord la découverte de la préhistoire, et puis au grand public, la découverte du plaisir de savoir d'où il venait, et savoir d'où on vient, c'est apprendre que dans le monde, on est tous cousins. Et c'est très rassurant de s'apercevoir qu'on est tous cousins dans le monde. Après, effectivement, j'ai eu des contrariétés dans la fiction. C'est-à-dire que sur l'Odyssée de l'espèce, je survolais 6 millions d'années. Et là, donc j'étais frustré puisque je ne m'attachais pas à des personnages. Je m'attachais à un héros qui s'appelait l'homme avec un grand H. Donc j'ai eu envie de m'arrêter un peu sur ces personnages, de passer du temps avec eux. Et c'est là ce que la fiction m'autorise, c'est de m'arrêter avec Néandertal et de vivre les dernières heures ou les derniers mois de la vie du dernier Néandertal. Donc ça, c'est la licence poétique qui m'autorise ça. Mais qui dit licence poétique ne veut pas dire mensonge. C'est-à-dire que j'ai voulu monter une préhistoire réaliste, vraie, et j'ai même poussé le luxe, et le spectateur ne s'en apercevra pas, mais moi, c'est par fidélité et respect au spectateur, c'est-à-dire que, bien évidemment, après 4 mois de répétition, mes comédiens ont appris à tailler le silex, mais dès qu'il y a un gros plan de taillage de silex, c'est un tailleur de silex professionnel qui le taille. Ça ne sert rien à l'histoire, ça ne sert rien au film, c'est juste pour prouver ma fidélité au spectateur. Donc, fiction, oui, licence poétique, oui, épopée humaine, oui, ça c'est la fiction qui nous l'autorise, et AO, c'est un héros de fiction, un physique hors du commun, une destinée tragique, des valeurs humaines. Donc voilà, s'arrêter avec lui, vivre avec lui. Mais au-delà de ça, la fiction peut permettre aussi de rester proche de la réalité et d'apprendre dans le plaisir et l'émotion. La différence entre documentaire, fiction et fiction, c'est que déjà, au lieu d'appeler l'homme de Néandertal, je l'appelle AO. Je lui donne un nom. Je l'identifie, je le personnalise et je lui invente une vie. AO, c'est le nom du livre qui m'a donné l'étincelle de Marc Lambisky qui s'appelait L'Homme ancien, l'étincelle de me dire... Moi, après l'Odyssée de l'espèce, je voulais faire une fiction au cinéma sur la préhistoire. Et on m'a proposé de faire la suite de la guerre du feu. J'ai refusé parce que la guerre du feu, elle appartient à Jacques Hano. Et en plus, j'avais l'intime conviction que si on devait parler encore de préhistoire au cinéma, ça devait être sur Néandertal. Voilà. Sur cette espèce humaine qui a disparu parce que c'est riche d'enseignements. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre. Bien sûr, c'est pas un livre, n'est pas un scénario. On l'a adapté, on en a fait un scénario. Mais le nom sonnait juste, c'était juste deux lettres, AO. Et je l'ai gardé.
Parce que c'est pareil, on suppose hein, que le langage n'était pas forcément très très évolué, même si on savait qu'ils pouvaient parler, qu'ils avaient un larynx. Donc ça correspondait aussi à ça. Ils avaient des mots très courts, des phonèmes.
Oui, on pense qu'ils avaient certainement, bien évidemment qu'ils se parlaient, bien évidemment qu'ils pensaient, qu'ils avaient une pensée élaborée, peut-être moins construite, mais je mettrais construite entre guillemets, que la nôtre. Oui, nous on a inventé un langage avec Pierre Pelot, qui est aussi un romancier préhistorique, qui avait déjà fait ça pour ses romans, qui avait déjà travaillé des scientifiques en se disant, tiens, qu'est-ce qu'a pu devenir un cri de singe à partir du moment où il s'est mis debout, que son larynx s'est développé, que son palais s'est creusé, qu'est-ce qui reste dans les langages ethniques connus à ce jour, quels sont les mots communs dans le langage moderne dans toutes les langues. Et il a fait un lexique qu'on a développé pour l'Odyssée de l'espèce, qu'on a amplifié pour Homo sapiens, qu'on a rempli pour AO, donc maintenant on a un véritable dictionnaire. Imaginé, mais sérieusement. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, on va imaginer un langage, mettre deux bouteilles de vodka autour d'une table, rigoler et inventer. Non, on a fait une invention rigoureuse. Certainement, c'est ce qui ne parlait pas, mais M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc pourquoi on n'a pas fait du mot sapiens sans le savoir ? À la fin du film, le langage est tellement proche qu'à la fin du film, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de voix off. Il y en a déjà très peu. Il y a beaucoup moins de voix off. On n'en met plus parce qu'on s'est aperçu que le spectateur comprenait ce que les acteurs disaient. Et je vous rejoins parce qu'on a mis beaucoup, on a beaucoup inventé de mots et on s'est aperçu que dans ces mots inventés qui ne sont finalement que des sonorités, bah, y a du japonais, il y a de l'arabe, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, mais on l'a fait tout ça alors vraiment en totale innocence. Bah, tant mieux, ça veut dire qu'on est finalement on est revenu aux sources dans l'ignorance totale. Mais on est revenu aux sources du mot, ou en tout cas du son.
Voilà, c'était Jacques Malater, donc rencontré au Jardin des Sens cet été. Il était venu en fait présenter en avant-première son film AO, le dernier Néandertal, qui est projeté forcément au Royal, puisqu'ils l'ont conservé, mais aussi au De Gaumont Multiplex et Gaumont Centre-Ville. Voilà, donc c'est un film d'aventure. Alors il y a un pour indéniable, c'est la rigueur scientifique. Hein, il en a parlé, hein, pour tout ce qui est gros plan, ce ne sont plus les acteurs qui s'amusent à tailler le silex, mais de vrais spécialistes. Après, il y a forcément ce travail des acteurs dont il a aussi parlé, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des conditions extrêmes. Il était hors de question de tourner en studio ou que les personnages jouent le froid. Hein. Ils étaient vraiment dans le froid, à moins 10. Alors, il y a une partie qui a été tournée en Bulgarie, une autre partie à la Bourboule, je crois, voilà. Alors, il y a une séquence aussi. Alors, Malater en était très, très content. Il m'a indiqué, hein, que c'était le seul film avec un ours blanc. Voilà, il y a un seul ours blanc qui est dressé pour le cinéma. Et donc, eh bien, lui, il l'a fait jouer, cet ours blanc. Alors, ça a coûté la coquette somme de 200 000 euros, je crois, hein, pour le faire venir, je crois, du Canada. Et voilà, donc c'est la seule scène. Elle ne dure pas très, très longtemps, finalement. Mais en tout cas, il tenait à vraiment l'intégrer. Alors, il n'y a aucune image 3D, sauf des images d'abeilles à un moment. Mais sinon, tous les animaux qu'on voit ont été dressés. Et ça, il y tenait aussi. Et je trouve que, du point de vue de l'artisanat du cinéma, ça me semble plutôt bien de conserver tout cela. Après, ce qui empêche vraiment de rentrer dans ce film, c'est peut-être la voix off. Puisque la guerre du feu avait réussi à nous plonger dans un monde où le langage nous était totalement inconnu. Et je trouve que c'était une des forces de la guerre du feu de Jean-Jacques Haneau. Alors là aussi, il l'a dit, hein, ils ont inventé un langage. Au bout d'un moment, on arrive à percevoir quelques mots, comme manger et ainsi de suite, chasser. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais Malater n'a pas pu s'empêcher en fait de mettre une voix off. Alors je lui ai posé cette question sur la voix off et voilà comment il répond.
J'ai toujours pensé qu'il fallait une voix off dans ce film pour deux raisons. La première, elle est totalement historique ou préhistorique, c'est de me dire, je veux que les gens admettent que ces gens-là avaient une pensée élaborée. Voilà, qu'ils avaient quelque chose dans le caillou. C'est pas parce qu'on est à 30 000 ans qu'on n'avait rien. Je veux dire, la pensée n'est pas venue comme ça avec l'ère chrétienne. Elle existe depuis des milliers, des centaines et milliers d'années. Donc la voix off permet de montrer que ces gens pensent. Et la deuxième chose, elle est purement narrative au niveau cinématographique, c'est-à-dire que je me suis dit, certes, il y a des cinéphiles qui vont me dire « Mais moi, j'aurais compris le film sans voix off. » Je suis d'accord. Je l'ai écrit sans penser à la voix off. Mais il y en a d'autres qui ont peut-être eu du mal, des enfants, des gens qui auraient eu du mal à rentrer. Elle leur tient la main. Donc je pense que le cinéphile qui se serait passé la voix off ne détestera pas le film, mais celui qui ne serait pas rentré par l'absence de voix off, par l'absence de la main tendue, et dire « viens avec moi, je vais te raconter une histoire », ben lui, je l'aurais perdu. Et moi, lui, je vais le conserver, parce que je sais qu'à la fin, eh ben, il aura fait un grand voyage il y a 30 000 ans, et il aura appris ce qu'il est lui-même aujourd'hui en regardant ce qu'il était hier.
Voilà, donc comment il se justifie. Alors, bien, cette voix off, effectivement, a une pensée plutôt élaborée. Alors, c'est bien, hein, finalement, peut-être, comme il le dit, de lutter contre les a priori, enfin, de nos ancêtres qui seraient que des singes avec enfin, des pensées simplistes, effectivement. Enfin, il était capable d'apprécier sans doute Néandertal, le coucher de soleil, la nature, et c'est un peu comme ça qu'il le dépeint. Alors on sent une vraie sympathie, hein, pour ce Néandertal qui a disparu un moment. Alors les scientifiques se sont penchés sur la question, ils ne savent pour l'instant pas comment Néandertal a pu disparaître, soit c'était un virus, c'est ce qui est un peu montré dans le film, c'est la piste qu'a pris Malater, ou soit, alors là, aucune preuve non plus, soit eh bien, Homo sapiens lui a mis une grosse raclée, ce qui est tout à fait possible aussi, mais il se trouve que morphologiquement, Néandertal était capable de mettre une grosse baffe à Homo sapiens. Donc voilà, enfin les... C'est ce qui est intéressant aussi avec la préhistoire, c'est qu'on n'a pas toutes les clés. Alors Malater, pour construire son film, donc c'est appuiser la source dans un roman, mais il s'est aussi beaucoup entretenu avec les spécialistes de la préhistoire pour essayer d'ajouter des choses vraisemblables, notamment la rencontre entre Néandertal et Homo sapiens. Alors ça n'avait pas été prouvé quand il a commencé le tournage, c'est assez intéressant. Et puis eh bien, quand le film est sorti, ou qu'il était en fin de montage, eh bien, il y a une équipe allemande qui bossait depuis 3 ans sur la génétique de Néandertal et d'Homo sapiens et qui a trouvé eh bien, des ressemblances. Donc il semblerait que quelques individus parmi nous portent les gènes de Néandertal. Voilà. Donc je vous conseille quand même d'aller voir A.O. le dernier Néandertal. Déjà parce que c'est un des rares films donc, qui se situe dans la préhistoire et... qui montre qui est plutôt rigoureux, et puis aussi parce que c'est tout simplement un film d'aventure qui est d'une simplicité, une simplicité qui permet effectivement de s'y plonger. Alors après, est-ce que vous serez embêté ou non par la voix off, eh bien vous le saurez après avoir vu A.O. le dernier Néandertal, donc Gaumont, et puis aussi du côté du Royal. Voilà. À toi, Martin, maintenant, pour parler eh bien, des événements.
Alors, rapidement, donc, pour ceux qui sont allés voir A.O. et qui voudront continuer sur leur lancée, 3-4 petits événements pour cette semaine jusqu'à mardi. Donc, demain à 18h, à la médiathèque Federico Fellini, vous avez le cycle Connaissance du cinéma qui consacre bien cette session au film d'aventure. Donc le programme est disponible dans les médiathèques. Ça vous permettra de revoir sans doute quelques grands films d'aventure, peut-être d'assister à des conférences aussi sur le sujet. Demain, toujours à 20h, vous avez au Diagonal une projection ciné-concert, donc autour du Faust de Murnau. Donc ce sera Martial Romanco qui accompagnera le film en direct dans la salle. Martial Romanco qu'on avait accueilli à Cinérama il y a quelques années, je ne sais plus pour quel, peut-être pour Nosferatu.
Je ne sais plus pourquoi c'était, voilà. Mais effectivement il était venu, on avait eu du mal à le faire parler, hein, c'est mon souvenir.
C'est vrai, mais par contre il joue de la musique,
c'est un musicien,
très facilement. Voilà. Et donc un petit conseil réservé peut-être à l'avance, parce que ces ciné-concerts sont souvent complets. Enfin, vendredi 1er et mardi 5, vous avez 2 avant-premières de Donnant Donnant, une comédie d'Isabelle Mergault avec Daniel Auteuil et Sabine Azéma. Donc c'est respectivement donc vendredi au Gaumont Comédie et mardi au Multiplex.
Isabelle Mergault, c'est voilà.
C'est celle avons plus ou moins découvert dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, c'est ça?
Ah.
Non, qui jouait la vendeuse de
cigarettes. Ah, peut-être, oui, voilà, oui, c'est la même.
Ouais. Donc voilà, ça serait pour vous détendre, une petite comédie française.
On en a terminé avec les événements.
Ah, les événements, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus. Oui.
D'accord. Bon, bah, ça veut dire qu'on en a terminé aussi avec cette émission. Première émission de la saison. Voilà, c'est des petits réglages.
Galop d'essai.
Absolument. Donc, il faut savoir qu'en plus, on est séparés par une vitre, hein, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc, toi, t'es dans un bocal et moi, je suis dans un bocal aussi. Qui, voilà. Et on se retrouve par contre la semaine prochaine. On essaiera.
La semaine prochaine.
Et on essaiera de contenir les 30 minutes.
Que nous avons largement dépassé aujourd'hui.
Absolument. Vous pouvez nous retrouver. On n'a pas encore écrit l'article, mais normalement, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur www.divergence-fm.org. Je pense que ce sera au point ce soir. Vous êtes arrivé pendant le cours de cette émission. Et sinon, donc, la semaine prochaine, on essaie de conserver cet horaire pour l'instant, 13h30, 14h.
À la semaine prochaine.
À la fin du générique, on ne perd pas nos bonnes vieilles habitudes. On va mettre un extrait de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard.
Monsieur Porcelain, puis en banque un, je t'ai dit 5.
Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde.
Cinérama.
Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.